On commence par le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Il y aura bien des suppressions de postes à Bercy, Gérald Darmanin le confirme. Le ministre juge illusoire de croire que les transformations ne s'accompagneront pas d'une baisse de l'emploi public. Et compte rendu de réunion dans ce journal.
Et puis nous irons ensuite en Thaïlande après l'euphorie du sauvetage d'une équipe de football coincée dans une grotte. La question des apatrides refait surface. Ils sont environ 500 000 en Thaïlande, membres notamment des minorités ethniques de la Birmanie voisine.
France-Croatie, voici l'affiche de la finale du mondial de football. La Croatie qui revient de loin, analyse des tensions liées au football dans l'ex-Yougoslavie.
Et puis dans une grosse demi-heure, mobilisation générale autour de la guerre commerciale. Notre invité à ce propos, Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique. Il sera avec nous à partir de 7h40.
Cacher ce chiffre que l'on ne saurait voir, il y aura bien des coupes d'effectifs dans l'administration fiscale, mais le ministre de l'Action et des Comptes Publics refuse pour le moment d'avancer un chiffre. Gérald Darmanin attise ainsi un peu plus la colère des agents du fisc, d'autant Mélodie Pépin qu'il a appelé à une vaste réorganisation des services hier.
Un chantier immense, une transformation exceptionnelle, dit-il. Gérald Darmanin veut imaginer l'administration idéale en 2022. Traduction, plus efficace, donc plus resserrée, dématérialisée, allégée, avec moins d'impôts à gérer comme la taxe d'habitation, le prélèvement à la source. Il propose un seul service de recouvrement au lieu de trois, par exemple. Une réorganisation territoriale aussi, moins concentrée dans les grandes métropoles. Des transformations qui auront des conséquences, prévient Gérald Darmanin.
Il serait illusoire de croire qu'elles ne s'accompagneront pas d'une baisse de l'emploi public, tant nous avons à changer de mission, à gagner en efficience, mais aussi parce que, je vous le rappelle, la réduction de l'emploi public était un engagement du président de la République, et il y tient. Et je sais que c'est aussi une préoccupation de nos compatriotes qui souhaitent que nous baissions la fiscalité et donc nous baissions nos dépenses.
Et donc, moins d'agents, mais combien? 18 000, 20 000, comme l'a estimé le syndicat Solidaire Finance. Sa secrétaire générale, Anne Guyot-Walk, retient surtout que le ministre n'a pas démenti ce chiffre.
Et comme il ne dément pas le chiffre, je pense qu'on est, pas loin de la réalité. On a déjà des difficultés aujourd'hui. On a eu 38 000 suppressions d'emplois depuis 2002. Donc ce manque de moyens qui est réel aujourd'hui, on ne peut plus en absorber, nous, dans l'administration.
Une administration qui compte aujourd'hui 103 000 agents et pèse cette année 8 milliards d'euros de budget, la deuxième plus grande de l'État. Gérald Darmanin donne rendez-vous à l'automne pour trancher sur les moyens, après avoir rappelé qu'il n'y a pas de citadelles inattaquables, il n'y a que des citadelles inattaquées.
Voilà qui plante le tableau. Grand gagnant, a priori, l'année prochaine, les ministères de la Défense, de l'Éducation, de la Justice, dont les crédits vont augmenter. Les budgets baisseront en revanche fortement au ministère du Travail et de l'Emploi, avec la disparition progressive des emplois aidés. Idem, entre autres, au sein des ministères de la Cohésion, des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Collectivités qui entretiennent toujours des rapports plutôt froid avec le gouvernement. Preuve en est ce jeudi, la Conférence nationale des territoires sera en partie boudée par les élus. Boycott des représentants des régions, des départements et d'une partie des maires. Ils n'acceptent pas l'encadrement des dépenses de fonctionnement, mais également la fermeture de certains services publics de proximité ainsi que la suppression annoncée de la taxe d'habitation. Il n'y a pas d'obstacle juridique à la procréation médicalement assistée, la PMA. Le Conseil d'État l'affirme dans un rapport rendu hier à Matignon sans prendre parti. La plus haute institution juridique s'est penchée sur le cadrage juridique, quelle que soit la décision du gouvernement à l'automne prochain. Le Conseil d'État se dit ainsi favorable sur le papier à la double filiation maternelle. Deux femmes pourraient être reconnues comme mères d'un seul enfant. Il est en revanche, le Conseil d'État, opposé à la gestation pour autrui. Le mea culpa de Jean-Vincent Placé, poursuivi pour violence volontaire sous l'emprise de l'ivresse, injure publique à caractère racial ou outrage sur personne dépositaire d'une autorité publique. Les faits s'étaient déroulés à Paris en avril dernier et au tribunal hier, le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis. Laura Dulieu a assisté à l'audience.
À la barre, l'ancien secrétaire d'État en costume et cravate sombre reconnaît un comportement rigolard, prétentieux, voire hautain. « J'avais évidemment trop bu », explique-t-il. Quand le président lui demande s'il s'est déjà comporté ainsi avec des femmes, le prévenu répond « Oui, il a pu m'arriver d'être lourd ». « Sous l'emprise de l'alcool », demande le président. « Oui », répond simplement Jean-Vincent Placé. Trois mois après les faits, l'ancien secrétaire d'État assure au tribunal soigner son addiction à l'alcool et avoir entamé un parcours de soins psychiatriques pour savoir où j'en suis dans ma vie, dit-il. Parmi les autres faits qui lui sont reprochés, Jean-Vincent Placé reconnaît les outrages aux policiers. J'ai perdu le sens commun, je le regrette. Quant aux injures racistes dont l'accuse le vigile du bar, il ne reconnaît qu'une seule phrase. On n'est pas au Maghreb ici, mais il dément le caractère raciste. C'était maladroit, mais déconnecté de toute injure raciale, assure-t-il au tribunal, d'autant que je croyais qu'il était de l'Europe de l'Est. Quant à la jeune femme prise à partie par l'homme politique, elle n'était pas présente à l'audience. Après les excuses de l'ancien secrétaire d'État, elle n'a pas donné suite à ses poursuites.
Et le délibéré sera rendu le 10 septembre prochain.
Il est 7h05 sur France Culture. Donald Trump souhaite que les pays membres de l'OTAN doublent leurs dépenses militaires à hauteur de 4% du PIB, Clara Lecoq-Réal.
Une vaine demande faite hier lors du sommet de l'OTAN, quand les 28 autres dirigeants peinent eux déjà à atteindre les 2% de leur PIB d'ici 2024. Autre annonce à retenir de ce sommet, l'OTAN invite la Macédoine à entamer officiellement des négociations pour devenir le 30e pays membre de l'Alliance. Le sommet se poursuit ce matin encore à Bruxelles. De nouvelles tensions entre Israël et la Syrie à la frontière commune. Des tirs de missiles israéliens ont touché hier des positions de l'armée syrienne dans le sud-ouest de la Syrie, et cela près des hauteurs du Golan occupé par Israël. Le soulagement en Thaïlande après l'évacuation de 12 enfants et de leur entraîneur. Ils étaient coincés dans une grotte inondée pendant plus de 2 semaines. Parmi les rescapés, 4 sont apatrides. L'occasion pour les associations et les ONG sur place d'attirer l'attention sur les milliers d'apatrides en Thaïlande, alors que le pays fête son succès, Arnaud Dubu.
2 jours après la conclusion d'une remarquable opération de sauvetage, toute la Thaïlande célèbre les 12 enfants et leur entraîneur, Ekapon Chantawong, comme de véritables héros nationaux. Des chansons ont été écrites en leur honneur, le roi de Thaïlande a salué leur ténacité et ils sont devenus une source d'inspiration pour le pays. Le paradoxe, c'est que 3 de ses enfants et l'entraîneur ne sont pas thaïlandais, mais apatrides. Ils sont membres de minorités ethniques de Birmanie et ont été envoyés par leur famille en Thaïlande dans l'espoir d'un avenir meilleur. L'un des enfants, Adul Samon, âgé de 14 ans, est en Thaïlande depuis 8 ans. Il a joué un rôle clé durant les séjours forcés dans la grotte. Il a permis au groupe de communiquer en anglais avec les plongeurs britanniques qui les ont localisés. De même, Ekapon, l'entraîneur, un ancien bonze, a permis de maintenir la cohésion du groupe durant les 10 jours qu'ils ont passés dans l'obscurité au fond de la grotte. Certaines organisations de la société civile, notamment la branche locale d'Amnesty International, estiment que c'est l'occasion pour le gouvernement thaïlandais de revoir sa politique envers les apatrides. Il y a environ 500 000 apatrides venus des pays voisins en Thaïlande. Souvent, ceux-ci n'accèdent à la nationalité thaïlandaise qu'après plusieurs décennies à cause des lois restrictives. Ils ne peuvent par exemple se déplacer librement dans le pays. La junte a laissé entendre qu'elle pourrait faciliter l'accession à la nationalité thaïlandaise pour les 3 enfants et leur entraîneur, mais refuse pour l'instant de modifier sa politique générale d'immigration.
Arnaud Dubus pour France Culture. Un succès national, là aussi, une fête dans le pays qui n'efface pas les dissensions. La Croatie s'est qualifiée hier soir pour la finale du mondial de football en battant l'Angleterre 2-1 après prolongation. La Croatie qui affrontera donc la France dimanche pour une étoile mondiale. Une surprise, car le football dans la région est une source de tension, Jean-Arnaud de Reims.
C'est une euphorie en forme de damier rouge et blanc qui a submergé la Croatie. Depuis le début de la Coupe du Monde, l'équipe nationale accumule les performances jusqu'à sa qualification hier soir en finale. Le football croate revient pourtant de loin, rongé par d'innombrables affaires de corruption. Le 14 juin, l'ancien président de la fédération et du club Dynamo de Zagreb, Zdravko Mamić, était ainsi arrêté en Bosnie-Herzégovine, où il s'était réfugié après avoir été condamné à une lourde peine de prison pour avoir détourné pas moins de 15 millions d'euros. En Croatie, où le football est une passion nationale, les supporters ont appris depuis bien longtemps à supporter la corruption endémique de leurs dirigeants, et ces dernières années, certains ont même tenté de reprendre eux-mêmes en main les clubs, comme le fameux Hajduk de Split, essayant d'expérimenter une forme originale d'autogestion appliquée au ballon rond. Le football est aussi, comme souvent, un vecteur des passions nationalistes, notamment en Bosnie-Herzégovine, où les Croates représentent 15% de la population totale du pays et vibrent bien sûr aux exploits de l'équipe à l'échiquier. Les autres communautés du pays, les Bosniaques et les Serbes, sont plus réservées. Certains redoutent les excès nationalistes des possibles vainqueurs de la Coupe du Monde, mais beaucoup saluent les exploits des voisins. Dans toute l'ancienne Yougoslavie, notamment en Serbie, la question fait d'ailleurs débat, mais beaucoup d'amateurs de foot se disent qu'au bout du compte, les Croates sont quand même d'anciens compatriotes, à l'instar du tennisman serbe Novak Djokovic, qui n'a pas hésité à afficher son soutien à l'équipe croate.
Un temps nuageux de l'Île-de-France au Grand Est, sur les Pyrénées également, partout ailleurs du soleil et le temps qui se radoucit un tout petit peu avec 18 degrés ce matin au Havre, 21 à Besançon, 22 à Paris, Rennes, 24 à Lyon, 28 à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal, on vous retrouve à 7h30 pour un rappel des titres.